Vous écoutez RTL.
Et voici donc la curiosité, comme promis, ils sont là.
Elle est là aussi.
Oui, oui, attention, soyez très très riche en compliments.
Non, alors justement, c'est moi qui vais vous faire un compliment. Je cherchais en fait un compliment lié à notre sujet du jour, Stéphane. Je vais vous appeler ma mimolette.
Ça vous va tellement bien. Surtout avec votre bronzage, ça vous va parfaitement bien.
On va répondre à 1000 questions sur le fromage. Tartine-t-on du beurre avec le fromage? Doit-on le conserver dans une boîte? Faut-il le chambrer avant de le déguster?
Ça
vous concerne aussi, Stéphane. Allez, régalade prévue vers 14h30.
Allez, tout de suite, une star sur RTL, bébé initial.
RTL. La curiosité est un vilain défaut. RTL.
Quand j'ai débuté à Paris, j'ai eu un article dans un journal à Sensation. Il y avait eu une photomontage où j'étais, moi, assis sur les genoux de Brigitte Bardot. Et ma maman m'a téléphoné, elle m'a dit: écoute chérie, fais attention, cette femme est capable de te faire souffrir.
Thomas Hood, Sidonie Bonnec.
Brigitte Bardot au menu de notre curiosité. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour une heure de bonne humeur dans cette émission. On se cultive sans se prendre au sérieux. Ça va, Sidonie?
C'est vrai, ça nous ressemble. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Demain, c'est la grande soirée du cinéma français. Les Césars que vous pouvez suivre en direct sur RTL avec Stéphane Boutsock, Vincent Perrault et Régis Varnier. L'occasion pour nous de découvrir les secrets de bébé.
Brigitte Bardot, dont on ne parlera sans doute pas pendant cette soirée des Césars. Bonjour Véronique Lebris.
Bonjour à
Bienvenue.
Vous.
Bienvenue,
merci.
Heureux de vous retrouver. Vous êtes journaliste, critique de cinéma. Pourquoi ne risque-t-on pas de voir un hommage à la carrière de Brigitte Bardot?
Elle n'en a jamais eu d'hommage, je crois, dans la 43e édition des Césars demain soir. Je lui ai posé la question, en fait, elle ne m'a pas répondu. Alors je ne sais pas si c'est par pudeur ou pas, mais j'ai l'impression que quand même tous les organisateurs des Césars n'y pensent jamais. Elle est un peu...
C'était pas une grande actrice?
C'était une très grande actrice, bien sûr que c'était une très grande
actrice. Alors pourquoi elle n'est pas là? Officiellement, on lui reproche quoi?
On lui reproche un peu ses prises de position politique, en fait, un peu sa grande gueule aussi, il faut quand même être honnête. Et puis le fait qu'elle ait peut-être rompu un peu brutalement avec le cinéma. Mais il y en a d'autres qui ont des positions politiques qui sont vertes. Moi, je pense qu'il y a quand même le fait que ce soit une femme, que c'est une séductrice aussi, ça joue un peu contre elle quand même.
Il y a quelques semaines, le quotidien Le Monde lui a ouvert ses colonnes pour un long entretien. Est-ce qu'on peut espérer un retour de flamme, une sorte de réhabilitation dans l'opinion? Est-ce qu'elle revient un peu dans le cœur des Français comme elle l'a été très longtemps?
Ça c'est difficile à dire, ce serait bien en fait. En tous les cas, elle n'a jamais quitté le cœur des étrangers, parce que dès que vous sortez de France, elle est adulée, ça reste une référence absolue, ça a été une star incroyable, enfin ça a été la plus grande star française qu'on ait eue, ça, franchement c'était incontestable. Je pense que c'est encore la française la plus connue à l'étranger, même si évidemment il y a des plus jeunes, en fait Sophie Marceau ou Catherine Deneuve, mais quand même la référence dans le monde entier c'est Brigitte Bardot.
Et donc vous espérez une sorte de réhabilitation? Est-ce injuste qu'elle soit un peu mise de côté?
Oui, je trouve que c'est injuste. En fait, c'est un peu violent. Alors, elle a pas aidé parce qu'évidemment, elle est très franche, elle est très cash. Et quand elle prend position, malgré tout, même si elle prend position, par exemple sur le harcèlement sexuel, on la suit, on l'écoute.
Ouais. Mais quand elle soutient Marine Le Pen à la présidentielle de 2012, forcément, elle se fait des ennemis.
Un petit peu, oui. Ouais, ça c'est sûr. Sans doute beaucoup. Mais je pense qu'elle. Enfin bon, alors, moi je lui pardonne pas forcément ça. C'est pas le problème. Mais je la juge pas en tous les cas sur sa case, sur
son
politique.
Bien compris.
Et surtout, en plus, quand on lui demande, elle dit « De toute façon, on me confond avec mon mari, on confond mes opinions politiques avec celles de mon mari, qui lui est franchement plus à droite, effectivement, qu'elle. »
Véronique Lebris, grâce à vous, on va découvrir de nombreuses anecdotes concernant Brigitte Bardot, parce que c'est ce qui nous intéresse, son destin. Elle est née le 28 septembre 1934. À quel âge se retrouve-t-elle sous les projecteurs?
Très jeune, à 14-15 ans à peu près. En fait, elle faisait de la danse classique. Et dans sa famille, on connaissait un peu tout Paris. Et très vite, elle a été repérée par Hélène Lazareff pour faire une couverture de Elle.
Donc elle est mannequin au début?
Elle est mannequin, oui, c'est ça, on peut dire ça. Elle est mannequin à 14-15 ans, effectivement.
Ouais. Elle est repérée par Hélène Lazareff, il y a une histoire familiale derrière ça.
C'est une amie de sa mère, ouais, voilà, c'est ça en fait, qui cherche. Je crois qu'Hélène Lazareff cherchait une candidate pour signifier un peu la jeunesse, parce qu'on est après la guerre, et à l'époque, c'était l'époque du New... Enfin, dans la mode, on était un peu à l'époque du New Look, etc., et c'était quand même une mode de dame, quoi. Et on sentait frémir la poussée de la jeunesse, et donc elle a été la première à l'incarner.
Mais ça veut dire qu'elle est connue avant même de faire du cinéma?
Oui, elle est connue avant de faire du cinéma. Son premier film c'est 1952, grâce à son père et non pas grâce à Roger Vadim. Mmh. Effectivement, elle pose d'abord pour des magazines. Elle a d'abord une carrière de mannequin, en fait, avant de faire du cinéma.
Elle représente quoi, Bardot, dans cette France des années 50 ?
Elle représente, c'est pas dans la France, c'est dans le monde, elle représente la jeunesse. Ouais. En fait, elle est la bourrasque qui va faire qu'on va passer d'un monde de vieux, en fait, un peu bourgeois, disons, à une attraction, à une ode à la liberté et à la jeunesse, surtout.
Ça, mais passe, elle... ça passe par un film, ça, pardon, Sidonie. Ça passe par un film, 1956.
Alors, lequel ? Ça passe effectivement par « Et Dieu créa la femme oui. », mais ça passe quand même par l'attitude de Brigitte Bardot aussi.
Comment elle est son attitude ?
Elle est très libérée, elle est pas du tout dans les carcans des sexes symboles habituels, ni de la bourgeoise, elle est pourtant issue de la bourgeoisie, hein, mais elle représente pas ça en fait, elle représente quelque chose de différent.
Elle est naturelle, elle est impertinente, elle est comment Brigitte Bardot ?
Elle est pas tellement impertinente, elle est naturelle, voilà, elle est comme elle est. Et elle se propose comme ça, en fait. Et alors, elle a la chance d'avoir évidemment un physique plutôt flatteur, un port qui est très altier, parce que justement, elle fait de la danse, donc elle sait bien se tenir, etc. Et elle lance
une mode aussi, une mode vestimentaire, Brigitte Bardot.
Alors, au fur et à mesure, oui, de toute façon, elle va imposer son style à elle, et qui est encore le style le plus copié, ce qui est quand même incroyable, parce que c'était dans les années 50, hein, ça reste la coiffure, tout, c'est le style le plus copié, le plus identifiable. On peut en citer plein, des mannequins, Claudia Schiffer, par exemple, Laetitia Castel, elles ont toutes piqué un peu du style de Brigitte Bardot.
Mais je parlais du film de Roger Vadim, qui était son mari à l'époque, et Dieu créa la femme. C'est quand même grâce à ce film que son statut bascule, on peut dire ça.
Oui, alors c'est quand même son 18e film, hein, donc on n'est pas à ses débuts. Mais alors, déjà, son mari, il travaillait à Paris Match à l'époque, puisque son père avait imposé, le père de Brigitte Bardot avait imposé que son mari ait un vrai métier. Donc lui, il voulait faire du cinéma, mais donc il est journaliste à Paris Match, et il s'amuse un peu avec les couvertures de Paris Match, etc., à mettre en avant sa femme quand même. Donc elle est déjà très peopleisée en fait. Et puis il fait ce scénario et là c'est une ode à sa femme en fait. Enfin c'est un rôle qui lui est écrit sur mesure, qui est même pas écrit d'ailleurs, c'est elle.
Et elle joue quel rôle d'ailleurs, Brigitte Bardot ?
Elle joue le rôle d'une jeune fille qui a une sexualité très naturelle. Pas forcément débridée, mais en tous les cas, elle fait ce qu'elle veut, elle désire les hommes qu'elle veut et elle se comporte comme elle veut.
Ah, ça, c'est nouveau dans la France des années 50.
Ah, c'est une révolution.
Et ça va effectivement faire d'elle une star internationale. Véronique Lebris, vous publiez 50 femmes de cinéma aux éditions Marest et on y découvre que ce succès ne rend pas forcément Brigitte Bardot heureuse. On vous raconte ce jour de septembre 1960 où elle a failli mourir, les veines tranchées.
Tu veux ou tu veux pas ? Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis.
La curiosité est un vilain défaut.
À un homme, je demande d'être un homme. Un homme, c'est celui que j'aime. Je crois que j'ai besoin d'aimer énormément. C'est une soupape de sécurité chez moi. C'est ça, je meurs si je n'aime pas. Et puis, si on ne me rend pas cet amour, ben, je me dessèche.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Je t'aime. Je t'aime. Oh oui, je t'aime.
Je meurs si je n'aime pas un destin hors norme comme on les aime, comme on aime les raconter dans La Curiosité. Brigitte Bardot, devenue star internationale en un film et Dieu créa la femme en 1956. Et c'est la journaliste Véronique Lebris qui nous raconte. Comment Bardot vit-elle cette célébrité fulgurante ?
Elle a un peu de mal en fait. Hein. Sa vie, c'est sa nature en fait. Elle est très 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 naturelle et effectivement, ça la contraint un peu en fait d'avoir tous ces paparazzi en permanence. C'est la femme la plus photographiée au monde à l'époque. Donc elle est bombardée en permanence, suivie, etc. Ça l'empêche de vivre.
Est-ce qu'elle est sollicitée par Hollywood aussi ?
Alors elle a été sollicitée par Hollywood, mais elle a dit elle-même que en fait ça correspondait pas du tout à ce qu'elle. Elle se sent française. Elle veut ses racines à côté de chez elle et elle veut sa famille autour d'elle. Donc ça, et ce qu'on lui proposait comme façon de vivre, ça ne correspondait pas du tout à ce qu'elle était, donc elle a refusé tout le temps.
Donc vous nous la décrivez harcelée par des paparazzi du monde entier en fait, hein, puisque c'est la femme la plus photographiée au monde, ou en tout cas les paparazzi français, ils savent que s'ils ont une photo de Bardot, ils vont peut-être pouvoir la vendre un peu partout sur la planète. On va raconter ce qui lui arrive le 28 septembre 1960, jour de ses 26 ans, et vous allez comprendre pourquoi je parle des paparazzi. Qu'est-ce qui lui arrive ce jour-là ?
Alors elle fait une tentative de suicide, elle commence par un mélange de médicaments et de champagne. Et puis elle part se retirer un peu à la campagne, en fait, dans une grange, je crois, où elle se tranche les veines. Elle décrit ça comme étant avec une sérénité assez incroyable. Et elle est découverte par un enfant qui avertit donc une ambulance. Et l'ambulance, il y a tellement de paparazzi qu'ils n'arrivent pas. Enfin, elle est quasiment mourante et ils n'arrivent pas à avancer, en fait, sur la route. Elle est bloquée constamment.
C'est-à-dire que l'ambulance est obligée de s'arrêter pour que les paparazzi fassent les photos et finalement ouvrent le chemin, quoi. C'est quand même complètement dingue.
C'est incroyable.
Elle n'essaiera plus jamais de se tuer, Brigitte Bardot ?
Elle a fait plusieurs tentatives de suicide. Je ne les connais pas toutes, mais elle en a fait plusieurs.
Pourquoi elle est malheureuse à ce moment de sa vie ? Est-ce qu'on peut l'expliquer ? C'est compliqué de trouver des
explications. Il faudrait lui demander. Est-ce qu'elle serait aussi honnête que ça ? Je ne sais pas.
Ce harcèlement des paparazzi, elle avait déjà vécu l'année précédente, au moment de son accouchement. Elles sont incroyables, ces images. Qu'est-ce qui lui arrive ce jour-là ?
Eh ben, elle avait prévu d'aller accoucher à l'hôpital ou dans la clinique, en fait, en bas de chez elle. Et elle a compris, en fait, qu'elle ne pourrait jamais descendre. Il y avait tellement de paparazzi, de journalistes, etc. autour d'elle, qu'elle n'aurait pas le temps, en fait, de descendre pour donner naissance à son fils. Donc, ils ont aménagé une chambre, en fait, dans son appartement pour qu'elle puisse accoucher chez elle.
Elle en garde un bon souvenir de cet accouchement, malgré tout ?
Je crois pas, non. Ouais, ça a été la maternité, elle a vraiment pas épanouie. Hein, on va être un peu fait. Enfin, c'est un euphémisme de dire ça. Mais l'accouchement, sûrement pas. Non, ça c'est sûr. Enfin, moi je me mets à sa place, ça doit être affreux. En fait, vous pouvez pas faire ce que vous voulez, etc. Et puis c'est quand même des circonstances où vous avez envie d'être libre. Tout simplement.
Évidemment.
Et seule.
Véronique Lebris, vous publiez 50 femmes de cinéma aux éditions Marest avec un long chapitre consacré à Brigitte Bardot. Elle a tourné 42 films en 20 ans de carrière. C'est ce que j'ai trouvé dans votre livre. Quand et pourquoi est-ce qu'elle arrête ? Pourquoi elle arrête le cinéma ?
Alors, elle arrête symboliquement à 39 ans, ce qui est quand même assez intéressant, donc avant la quarantaine. Pour ce livre, en fait, je l'ai interviewée. Alors, elle ne reçoit plus les journalistes, mais elle répond volontiers aux mails. Donc, elle m'a fait une lettre très charmante. Et elle disait qu'il y avait aussi le fait qu'elle avait peur de vieillir à l'écran et qu'elle préférait quitter le cinéma avant que le cinéma ne la quitte. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça, en fait. Il y a aussi je pense qu'elle ne trouvait pas de sens à sa vie au cinéma, entre lesquelles on avait fait le tour et qu'elle avait envie viscéralement de s'intéresser à quelque chose de plus fort qui était les animaux, en fait.
Oui, ça, on va en parler, mais est-ce qu'elle a profité quand même de sa carrière, de ses choix de films pour faire avancer la cause des femmes ? Parce qu'on a souvent gardé une image de Bardot, tête de linotte, ravissante idiote. Est-ce qu'elle a fait avancer la cause des femmes ?
Je pense qu'elle l'a fait, mais pas forcément consciemment, que c'était pas forcément travaillé. À partir du moment où elle s'est libérée de tout, c'est-à-dire qu'elle elle a porté les vêtements qu'elle avait envie de porter, elle obéissait à aucun diktat et qu'elle était très libre, en fait, autant pour se coiffer, pour se maquiller, pour exprimer son désir par rapport aux hommes. Bien sûr qu'elle a fait avancer la cause des femmes, elle a été, oui, d'une certaine façon, mais est-ce que c'était très volontaire ? Est-ce qu'elle l'a fait pour ça ? Je crois pas. En fait, c'était juste, elle a décidé d'être libre, et la liberté, c'est quelque chose qu'elle a revendiqué et qu'elle a dicté aux femmes, oui, d'une certaine façon.
D'ailleurs, que disait Andy Warhol à ce propos, Brigitte Bardot, qui libère les mœurs féminines ?
Ah oui, qu'elle utilisait les hommes comme des objets, c'est ça qu'elle
les achetant et en les jetant. J'aime ça,
voilà.
Ils disent qu'elle a été une des premières femmes vraiment modernes.
Oui, c'est ça. Elle suit son désir. Elle obéit à personne, ni à son père, ni à ses maris, ni à ses amants, ni quoi que ce soit. Elle fait ce qu'elle veut.
Et elle n'a pas changé.
J'ai pas l'impression qu'elle ait beaucoup changé, non.
Après le cinéma et la chanson, Brigitte Bardot se lance dans la défense des animaux, un engagement qui lui fait renoncer à un très gros chèque signé Madonna. Vous voulez savoir combien et pourquoi ? Restez avec nous les curieux sur RTL.
Et on s'offre forcément Brigitte Bardot, chanteuse. Voici la Madrague.
Bonjour, c'est Julien Cellier.
Bonjour, c'est Marina Giraudot.
RTL Petit Matin.
Chaque matin, entre 4h30 et 7h, nous vous réveillons et vous informons dans la bonne humeur.
Autour de la table du petit déjeuner, Cyprien Signy et ses infos corrosives, Pauline de Saint-Rémy et les coulisses du pouvoir, Christian Menanteau pour décrypter l'actu éco, le chef Pasto pour réveiller nos papilles, et puis vous, bien sûr, au 3210 et sur la page Facebook RTL Petit Matin.
RTL Petit Matin avec Julien Cellier, chaque matin à 4h30 sur RTL.
Denis Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.
Toujours avec la journaliste et critique de cinéma Véronique Lebris pour découvrir, partager avec vous le destin, l'histoire de Brigitte Bardot. On ne peut pas tout raconter, évidemment, il faudrait 5 émissions. On a choisi de consacrer maintenant plusieurs minutes à la défense des animaux. Quand et comment Brigitte Bardot s'est-elle tournée vers cette cause, Véronique Lebris ?
Assez tôt, en fait. Je crois qu'elle a toujours été intéressée par les animaux. Dans un des livres, on raconte qu'elle jouait avec une petite souris qu'elle avait gardée quand elle était enfant, là, dans ses manches, et qu'elle la nourrissait. Je sais que dans les années 60, en fait, elle s'était aussi investie pour que les animaux soient abattus avec un pistolet qui atténuait, en fait, un peu la douleur, voilà, et la mort. Et, enfin, très vite, il me semble, sur son dernier tournage, elle pose avec des oiseaux, etc.
Et oui, alors dans l'interview au Monde qu'elle a donnée le mois dernier, enfin courant janvier, elle raconte que pendant ce film, le dernier film réalisé, je crois, par Nina Campanese, il y avait une figurante qui avait une chèvre. Et que c'était tous les jours, elle allait voir la figurante, et surtout la chèvre, elle se prenait l'affection pour la chèvre, jusqu'au jour où la figurante lui dit « Ah, vivement que le tournage se termine, parce que on va faire un grand méchoui, une grande bouffe, un grand pique-nique avec les copains, on va bouffer la chèvre !» Et donc elle décide, Brigitte Bardot, de racheter cette chèvre et de la sauver. Et elle dit que ça a été un des déclics dans sa décision de prendre la défense des animaux.
Elle devient, après Brigitte Bardot, la porte-parole de la SPA. Elle s'engage contre le massacre des bébés phoques. On a tous suivi ça. Il y a une grande campagne de publicité. Et évidemment, c'était important de le faire. Est-ce qu'elle fait preuve de courage à l'époque? Est-ce que c'est pas évident de se lancer là-dedans?
Je pense qu'elle fait preuve d'un certain courage, oui, parce que bon, les animaux, c'était pas forcément très populaire, et puis surtout quand elle détestait prendre l'avion, quand elle part en fait dans le nord du Canada, je crois que les conditions étaient assez terribles. Et puis elle a conscience qu'il faut qu'elle mette sa notoriété en fait au service d'une cause qu'elle veut défendre. Donc elle est prête à prendre des risques. Elle a pas été très bien accueillie.
Elle est pas bien accueillie, non. Les chasseurs, ils sont pas contents de l'avoir.
Elle était en avance quelque part, Brigitte Bardot, finalement, sur cette protection des animaux. Aujourd'hui, il y a énormément de régimes véganes, végétariens.
Oui, elle était en avance. Elle dit d'ailleurs qu'on est très en retard en France, en fait, qu'on est la lanterne rouge, la France est la lanterne rouge de la défense des animaux, qu'en Europe, partout, ça progresse, mais pas en France. Et elle s'est engagée avec une certaine... d'ailleurs, c'était assez bien pensé, moi, j'ai trouvé, c'est la façon dont elle défend les animaux. Et puis surtout, elle a eu quelques résultats, quand même, assez importants, sur les phoques, le commerce des peaux. Elle a réussi, en fait, aussi à éviter qu'on coupe la queue des chevaux. Enfin, en tous les cas, elle est dans la souffrance, elle a un réel amour, une réelle empathie.
Et des résultats,
oui. Pas toujours, mais elle en a.
Et pour ça, elle a donc créé sa fondation, la Fondation Brigitte Bardot. Comment elle la finance? Je crois que c'est au milieu des années 80. Comment elle finance sa fondation?
Alors, elle décide de vendre aux enchères, en fait, tout ce qui lui appartenait et qui avait un peu de valeur. Et notamment, il y a une bague que lui avait offert son mari Gunther Sachs, qui était un millionnaire, donc qui a permis de financer une grande partie de sa fondation. Et d'autre part, il y a une autre anecdote qui est assez amusante, c'est qu'elle avait des effets personnels, mais qui avaient moins de valeur, qui nécessitaient pas une vente aux enchères. Et elle décide d'acheter un stand, enfin pas d'acheter, mais de s'installer sur un stand au marché à Saint-Tropez et d'aller elle-même, voilà, sur la place des Lys, et d'aller elle-même vendre ses robes, enfin ses affaires comme ça. Et puis elle raconte aussi dans ses mémoires qu'à partir de 11h, elle s'en allait parce que les gens venaient la prendre en photo, en fait, alors qu'avant c'était elle qui tenait le stand.
Elle est encore active, la Fondation Brigitte Bardot?
Oui, tout à fait. Ouais. Elle m'a pas expliqué comment, mais en tous les cas, la sécurité, même si elle disparaît, Brigitte Bardot, en fait, elle sera toujours active. En fait, elle a déjà anticipé.
Alors, Véronique Lebris, pour bien comprendre la force de l'engagement de bébé envers les animaux, il faut raconter cette histoire incroyable qui concerne Madonna et un livre signé Bardot. Vous nous racontez la suite?
Oui, bien sûr. Donc, Brigitte Bardot écrit ses mémoires, Initial Bébé, en fait, un succès colossal. Ça a été traduit dans je ne sais plus combien de langues. Plus d'un million d'exemplaires ont été vendus. Et donc, Madonna décide d'acheter les droits du film, pour en faire un film. Et elle met 3 millions de dollars sur la table. Donc, c'est pas mal. Et Brigitte Bardot dit, non, moi, je ne les vends pas à Madonna. Elle porte de la fourrure. C'est hors de mes convictions. C'est pas possible. Donc, elle refuse.
C'est sacré caractère. On aurait pu, moi, quand j'ai lu cette anecdote, je me suis dit, mais elle aurait pu prendre cet argent pour sa fondation.
Je pense que ses valeurs sont plus importantes que l'argent.
C'est assez impressionnant. Et c'est aussi ce qui vous la rend particulièrement sympathique.
Est-ce que Madonna essaie de porter de la fourrure?
Peut-être, c'est une possibilité. Il faudrait peut-être qu'elle songe à racheter les droits, à reproposer l'acheter les droits. C'est quoi la vie de bébé aujourd'hui, Véronique Lebris?
Je pense qu'elle vit toujours à la madrague, si j'ai bien compris. En fait, elle dit qu'elle lit beaucoup, qu'elle s'occupe évidemment de ses animaux. Elle a cédé en fait ses propriétés à sa fondation pour les accueillir. Elle gère ça, en fait.
Est-ce que son fils, Nicolas, on a raconté l'accouchement tout à l'heure, est-ce qu'il fait partie de sa vie?
Il n'est pas très présent, je crois. Non.
C'est de sa faute à lui ou à elle?
Là, c'est plutôt de sa faute à elle. A priori, elle s'en est pas tellement occupée. Enfin, même pas du tout. Et il a été élevé par son père, et puis en fait après il est un peu... moi je connais pas exactement l'intimité de leur relation, mais a priori il vit en Scandinavie.
Il a des enfants? Est-ce que Brigitte Bardot a des petites filles?
Je crois qu'il a deux petites filles, ouais. Enfin, qui doivent être grandes d'ailleurs maintenant.
Elle est mariée, Brigitte Bardot, elle disait dans l'une des mises en onde de notre réalisateur Sébastien Duduit, « Si je n'aime pas, je meurs ». Est-ce qu'elle aime aujourd'hui?
Bah, écoutez, elle est mariée, ouais. Est-ce qu'elle aime? Bah, j'espère.
Il y a des chances. Voilà. C'est pas le genre de personne à se forcer, je crois.
Non, sans doute que non. Ça fait longtemps là, qu'elle est mariée, en 1992, je crois. C'est son quatrième mari.
Les Césars, c'est demain et aucune femme n'est nommée dans la catégorie meilleure réalisatrice. Est-ce une fatalité? On en parle dans un court instant sur RTL. Et puis dans la curiosité, on vous offre donc un plateau de fromage, histoire et conseil de dégustation.
J'ai déjà commencé, c'est délicieux.
La curiosité est un vilain défaut.
Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Moi je joue contre joue. Je veux jouer à joue contre vous, mais vous le voulez-vous?
RTL.
Sur la plage abandonnée.
Juste avant les Césars, c'est demain soir et ce sera en direct sur RTL avec Stéphane Boutsock, Vincent Perrault et Régis Varnier. On a découvert ensemble le destin de Brigitte Bardot dans la curiosité avec la journaliste Véronique Lebris. Vous êtes critique de cinéma et on a voulu garder un peu de temps pour parler des Césars demain et du fait qu'il n'y aura, encore une fois, aucune femme nommée comme meilleure réalisatrice. Est-ce que c'est une mauvaise habitude? Oui. Est-ce que c'est une fatalité?
Ben, j'espère que non, mais en même temps, en 42 éditions, c'est la 43e demain, il y a une seule femme qui a eu le César de la meilleure réalisatrice, enfin, c'est meilleur réalisateur même.
Donc, c'est Tony Marshall.
Voilà, c'est ça, en 2000 pour Vénus Beauté. Et il y a eu simplement 4 films réalisés par des femmes qui ont été élus meilleurs films. Donc, ça veut dire un peu quand même que les femmes auraient 10% du talent des hommes.
C'est insupportable. Et alors, vous avez, avec quelques-uns, décidé de lutter contre cette fatalité, comment?
Oui, voilà. Alors moi, j'ai créé un site déjà qui est spécialisé sur les femmes et le cinéma. J'ai écrit des livres aussi sur le sujet. Et surtout, on a lancé ce matin, en fait, la délibération a eu lieu ce matin, le prix Alice Guy, parce qu'Alice Guy, c'est une grande référence du cinéma français qui est absolument pas connue. C'est la première cinéaste et la femme qui a inventé le cinéma, en fait, grosso modo. Enfin, à l'époque des Lumières, etc., avant Méliès, etc. Enfin, incroyable, c'est un destin incroyable.
Donc on peut encore voir certains de ses films sur Internet, notamment?
Oui, on peut, chez Gaumont aussi, parce qu'ils ont les droits. Et donc, elle a fait 200 films incroyables, c'est vraiment incroyable. Donc, on a fait le prix Alice Guy, et qu'on a remis, en fait, donc c'est un jury, en fait, qui a remis à Paris La Blanche, de Lydia Terki. Et ça a été remis ce matin, j'en sors là, tout simplement.
Donc, le premier prix Alice Guy est remis à, vous nous rappelez son nom?
Oui, à Lydia Terki pour son film Paris la Blanche, et c'est donc le meilleur film, c'est ça, sorti en 2017, réalisé par une femme, et donc où il n'y a aucune chance au César pour qu'elle l'ait, puisqu'il n'y a pas de femmes qui sont nommées.
Merci beaucoup Véronique Lebris.
Voilà, merci à vous.
On est heureux d'avoir participé à la promotion de ce tout nouveau prix, le prix Alice Guy, et je rappelle le titre de votre livre qui rend justement hommage aux femmes de cinéma, 50 femmes de cinéma, publié aux éditions Marest.
Vous écoutez RTL.